Vous êtes avec SBS French.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Nathanaël, vous êtes notre analyste politique ici à SBS. Parlons un peu de cette élection qui a été annoncée en Australie. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. On attendait cette élection depuis l'annonce de la date. En tout cas, on sait maintenant que l'élection aura lieu le 3 mai. C'est très mitigé. C'est une élection qui est quand même très partagée, avec une coalition qui montait en puissance depuis certains mois, un parti au pouvoir qui petit à petit s'effondrait, petit à petit dans l'opinion publique. Vous voyez quoi ? C'est quoi votre lecture de cette élection ?
Le premier point là que vous avez mentionné est très important, c'est-à-dire que la coalition, donc composée à la fois des libéraux et des Nationals,
donc la droite,
qui est menée par Peter Dutton, donc le chef des Nationals qui est à la tête de cette coalition, avait le vent en poupe à la fin 2024 dans les sondages d'opinion, et puis là depuis quelques mois retombe un peu le momentum retombe un peu pour cette coalition. Elle reste, cette coalition, dans les derniers sondages d'opinion, notamment ceux du Guardian, elle reste toujours en tête par rapport
aux intentions de vote.
Dans les intentions de vote, de très peu, hein. On est pour les deux parties, on est autour de 50%, hein, un peu en dessous, un peu au-dessus. Mais la tendance, elle, est à la négative pour la coalition, alors que les travaillistes, eux, remontent. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous avez dit en introduction de ce sujet, c'est qu'effectivement, en Australie, et peut-être faire un peu de pédagogie des élections, la date des élections n'est pas fixe, non. Elle est annoncée.
Alors, le vote est obligatoire et la date est annoncée.
Exactement, le vote obligatoire, la date est annoncée. Alors, pourquoi est-ce que je veux parler de cette date annoncée ? C'est parce que Albanese a été un peu malin. Dans cette annonce. On a eu le budget il n'y a pas très longtemps,
la semaine dernière.
Fin mars. Alors, le budget, c'est très intéressant en année d'élection parce qu'on peut annoncer en fait ce qu'on veut, puisque de toute façon, si on remporte de nouveau les élections, on pourra dire que le contexte a changé. Et si l'autre parti remporte les élections, il pourra dire de toute façon, le budget, c'est pas le budget.
Et nous, on vous promettait ça.
Voilà, nous, vous promettez ça. Donc, Albanese fait un budget qui est plutôt bien reçu.
Malgré le fait que ce soit un budget déficitaire, ce qui est rare en Australie.
Malgré le fait que ce soit un budget déficitaire, c'est un budget, on va dire, réaliste, qui est plutôt bien reçu, qui ménage un peu la chèvre, et le chou. Dutton est censé, donc le budget a été annoncé, si je ne dis pas de bêtises, un mardi soir. Dutton est censé commenter le budget le jeudi soir, donc prendre deux jours. C'est-à-dire, il est annoncé, il est le mardi soir. Le mercredi, etc., les appareils politiques, les entreprises, elles font toutes leurs petits communiqués de presse bien propres en disant « nous, on est contents, on n'est pas contents, etc. » La coalition a prévu de parler le jeudi soir.
Et boum !
Boum ! Le jeudi soir, Albanese annonce, en plus avant le week-end, donc dans la chronologie médiatique, on sait qu'on va en parler tout le week-end, Albanese annonce les élections pour début mai. Donc, il grille la priorité à Dutton, qui ne peut absolument pas profiter de ce budget pour dire que la coalition aurait fait mieux, promet différemment, etc. Et donc Albanese, lui, par contre, enchaîne, reste dans une séquence assez positive.
Et je vais en rajouter une couche. Dans la foulée même de ça, il annonce qu'une de ses premières initiatives, ce serait de tenir les supermarchés honnêtes, on va dire, dans un mauvais français également, et de faire baisser le coût de la nourriture du jour le jour des Australiens, ce que l'opposition ne peut pas aller contre.
Non.
Donc cette annonce A plus B plus C, ça a été quand même pas mal joué.
C'était bien joué. Et puis sur cette annonce, c'est intéressant que vous mentionniez ça. En fait, pour nos auditeurs d'Europa Voice, d'SBS, qui doivent le subir, on a eu ce qu'on appelle une Senate Inquiry, où notamment le boss de Woolworths, Brad Balucci, a été plutôt malmené. En gros, il y a une espèce de monopole des supermarchés en Australie qui s'entendent sur les prix, etc. Enfin, c'est ce qui leur a reproché. Et là où c'est malin de la part d'Albanese, c'est que la droite, et d'ailleurs ça fait débat au sein de la droite de la coalition, Dutton était parti même sur ce qu'on a appelé une divestiture, donc c'est-à-dire une cession. C'est-à-dire qu'en gros, les supermarchés doivent céder une partie de leurs actifs pour casser le monopole. Alors déjà, au sein de la coalition, les libéraux, qui sont moins à droite que les Nationals, avaient dit non, pense pas que c'est une bonne idée. Mais donc Albanese, en parlant juste de mesures qui sont beaucoup moins extrêmes que ces cessions d'actifs, forcément ne peut faire que la droite s'aligne sur ces mesures-là. Et puis le contexte aussi, c'est qu'Albanese est malin puisqu'il le fait dans un contexte où on a ce qu'on appelle le rapport du ACCC, qui a donné 20 mesures justement pour casser un peu ce monopole du supermarché. Donc effectivement, Albanese a directement, comme vous l'avez mentionné, embrayé avec quelque chose de très concret pour les Australiens et donc coupé vraiment l'herbe sous le pied de Dutton et de la coalition qui, en plus, en parallèle de ça, comme dit dans cette seconde partie d'Europa Voice, est en train un petit peu de perdre le momentum qu'ils avaient à la fin de l'année dernière, à la fin de 2024.
Il y a aussi un très fort taux d'indécis. Alors, c'est pas anodin, mais c'est pas... Ça arrive assez souvent dans ce type d'élection, même si le vote est obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément s'y intéresser à la vie politique. Ces indécis-là, à quel point est-ce qu'ils sont vraiment clés sur le changement, ou est-ce qu'on peut partir d'un fait statistique en disant bon, bah, il y a tant de pourcents d'indécis, mais dans ces indécis, il y a 50-50, donc ils vont se répartir uniformément. Et en fait, en réalité, statistiquement, ils ne jouent pas vraiment un énorme rôle.
Alors, si vous m'aviez posé la question, il y a deux élections fédérales de ça, je vous aurais dit oui, effectivement, il y a une répartition statistique qui fait qu'en fait, les indécis vont représenter le score des partis, donc ils vont chacun un petit peu combler les trous, et donc ça n'a pas changé. Pour moi, le grand changement, c'est l'émergence des teals, des indépendants.
Ouais. Ce qui est nouveau en Australie.
Ce qui est totalement nouveau en Australie et dont l'idée est aussi, alors évidemment,
totalement nouvelle.
L'idée est de convertir des adeptes du bipartisanisme, donc de convertir des libéraux ou de convertir des travaillistes, mais surtout d'aller chercher aussi ces électeurs qui cherchent une troisième voie, cette troisième voie macroniste australienne. Et donc, en fait, pour moi, cette question des indécis, c'est plus est-ce que ces indécis vont donner un groupe politique encore plus fort aux Teals qui, pendant ce premier mandat, parce que c'est le premier mandat en fait vraiment d'indépendants, ont eu du mal à se structurer en tant que parti politique. C'est-à-dire qu'en Australie, on avait les travaillistes, la coalition, Liberal Nationals, et on avait dans certaines circonscriptions des indépendants. Mais on n'a pas...
Des Verts, enfin il y a...
Alors il y avait les Verts qui étaient en coalition avec les travaillistes, mais les indépendants... Et d'ailleurs, c'était aussi leur ADN, c'était de dire, nous, on fait pas partie d'un parti politique. Le problème, quand vous dites ça, c'est qu'effectivement, on pouvait remporter une élection, on pouvait remporter un siège à Kooyong, par exemple, à Goulston, comme c'est le cas pour citer quelques circonscriptions de Melbourne. Mais vous ne pouvez pas vraiment avoir une influence en tant que parti politique au Parlement. Donc là, la question, c'est est-ce que les indécis vont donner assez de poids aux candidatures indépendantes qui, parce qu'elles seront plus nombreuses, vont pouvoir vraiment être une force et aiguiller certains partis politiques. Alors, soit aiguiller... Il y a plusieurs scénarios, et là, je trouve bien ces scénarios. On va exclure deux scénarios, Christophe. Les deux scénarios qu'on exclut, c'est une majorité travailliste et une majorité de la coalition. Les deux partis n'auront pas les 70 et quelques députés de même pour avoir une majorité. Donc, les deux scénarios qui restent, un qui est pour l'instant de moins en moins probable avec les projections... C'est un gouvernement de minorité de la coalition Liberal Nationals qui vont former une alliance avec certains partis politiques. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réserve de voix. J'en discutais souvent avec des analystes politiques australiens. Le fait que les libéraux et les Nationals
soient déjà ensemble,
il fait qu'il n'y a pas de réserve de voix pour former des coalitions. Il y a Cliff Palmer, qui a un nouveau parti qui s'appelle Trumpet of Patriot, parce qu'il a perdu le nom, qui est certainement le nom de parti le plus... ridicule. mais il a un député, enfin je veux dire, il dépense des milliards. Donc il n'y a pas de réserve de voix. Donc le scénario le plus probable, c'est un gouvernement de minorité travailliste qui va devoir s'appuyer sur un autre parti ou sur d'autres députés pour former une coalition. Et là où ça va devenir intéressant, notamment par rapport à cette question des indécis, est-ce que les travaillistes vont continuer à travailler avec les Verts, avec toutes les critiques qu'on leur a pu faire sur des positions, sur plein de sujets, sur le radicalisme, etc. Ou est-ce que les travaillistes vont trouver dans les indépendants une force d'alliance, et surtout est-ce que les indépendants vont être assez puissants pour faire aussi un peu la pluie et le beau temps sur certaines décisions du gouvernement travailliste.
Et c'est vrai que si vous nous écoutez en dehors de l'Australie, c'est très important de comprendre ça, parce que c'est pas forcément un pays qui est sur le devant de la scène médiatique, politique en tout cas, mais ça c'est le côté super intéressant de ce qui se passe en Australie. L'élection en elle-même, c'est pas une élection à deux tours, c'est une élection à
un tour.
À un tour. Les gens élisent leurs députés qui après forment un gouvernement au sein de la... Donc c'est aussi un peu un système à la britannique dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il y a énormément à jouer en ce 3 mai.
Il y a énormément à jouer en ce 3 mai. Et puis juste aussi pour nos auditeurs, alors d'Europa Voice, d'SBS, mais je sais qu'on a aussi beaucoup d'auditeurs francophones qui nous écoutent à travers le monde. Ce qui est aussi important de comprendre par rapport à ces indépendants, c'est qu'à contrario de la France, où un gouvernement peut être de manière hypothétique complètement formé de gens qui ne sont pas élus.
Ouais.
Le meilleur exemple est probablement Dominique de Villepin, qui a été Premier ministre en France sans jamais avoir été élu. Mm-hmm. Donc ça, en France, c'est possible. Ça, évidemment, nos éditeurs le savent. On nomme un gouvernement, ça peut être des personnalités de la vie civile, ça peut être des politiques déjà élus, mais ça peut être théoriquement que des gens qui ne sont pas élus. En Australie, et basé sur le système britannique, on vote pour des députés. Les élections fédérales sont des élections législatives. Et après, le parti majoritaire, ou le parti qui a réussi à former une majorité, nomme son premier ministre, donc qui a été élu. Et après, il nomme ses ministres, mais qui ont aussi été élus. Donc la personnalité elle-même...
Et ça forme le front bench et le back bench.
Exactement. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que la personnalité du Parlement, la personnalité qui se présente au suffrage des élections législatives, est extrêmement importante. Peut-être plus qu'en France, puisque ces gens élus, ces personnalités politiques élues, seront aussi le gouvernement de l'Australie. Et donc, c'est pour ça que ces indépendants, ce n'est pas simplement des candidats un peu farfelus. Prendre un exemple, une comparaison française, Jean Lassalle, c'est très rigolo, Christophe, ouais. Je crois qu'on s'entend sur ça, mais il y a quand même peu de chances que Jean Lassalle ait des responsabilités au gouvernement en France un jour. Donc, c'est un peu, j'allais dire, indolore et folklorique d'avoir un Jean Lassalle dans l'Assemblée nationale. En Australie,
chaque siège compte.
Chaque siège compte. Et si la coalition a besoin de Jean Lassalle pour former sa majorité, ils prendront Jean Lassalle. Donc, ils prendront Jean Lassalle dans leur gouvernement. Donc, c'est pour ça que les personnalités politiques qui se présentent à ces élections fédérales sont extrêmement importantes. Et c'est pour ça que ces indépendants ont vraiment un rôle à jouer pour former, pour influencer sur cette majorité, enfin, cette coalition avec un gouvernement travailliste, sachant que certains indépendants ont déjà dit, notamment je pense à Jacky Lambie, qu'il serait prêt à travailler avec des gouvernements de droite. Donc il y a aussi ça. Est-ce que la droite sera assez intelligente pendant ce mois de campagne pour réussir à convaincre certains indépendants de travailler avec eux en cas de formation d'un gouvernement mené par les libéraux et les nationals?
Alors, en tout cas, il y a énormément à parler sur cette élection. On en parlera au gré des prochains épisodes d'Europa Voice, notamment avec la relation avec les États-Unis, les tarifs, les droits de douane. Est-ce que cela va changer la relation avec l'Europe en elle-même? Est-ce que ce libre-échange, cette fameuse nébuleuse de l'accord des libre-échanges, pourrait être accéléré avec ça? Ce sera sûrement le sujet de notre prochain Europa Voice. Merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.